Bonjour, bienvenue et merci d'être là. Pour cette 14e édition des Matinales Polars, nous recevons Alexis Ragugno, auteur publié chez Viviane Ami, qui a commis deux polars. En 2014, le premier s'intitulait « La Madone de Notre-Dame », le deuxième qui vient de paraître « Évangile pour un gueux ». Alors j'aimerais qu'on aille vers votre œuvre tout doucement, en commençant par le début, parce qu'au départ, je sais que vous êtes auteur de théâtre, dramaturge et comédien. Alors, est-ce que c'était des pièces policières pour en venir à ce chemin-là?
Non, c'était pas des pièces policières. C'est vrai que le chemin de l'écriture peut parfois emprunter des chemins assez inattendus. J'ai commencé à écrire des pièces de théâtre. J'avais 24 ans, donc c'était il y a une bonne quinzaine d'années. Et c'était au même moment, je faisais une école de théâtre. Donc, en fait, à la base. J'avais une formation plus classique, j'avais fait des études de commerce et puis vers 24-25 ans, j'ai décidé de céder à ma passion pour le théâtre. Et donc j'ai tout plaqué et j'ai fait une école de théâtre. Et donc en même temps, j'avais très envie d'écrire pour la scène. Et finalement, pendant une quinzaine d'années, j'ai pu développer cette recherche de l'écriture théâtrale et en même temps l'expérimenter directement sur le plateau. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène, avec un en particulier, avec lequel j'ai monté mes pièces. Et donc, ça a été, d'une certaine façon, une formation vraiment très bonne, notamment pour ce qui est de dessiner le squelette d'un personnage. Ce que je veux dire, c'est que quand on a écrit une pièce, quand on écrit des personnages, c'est ensuite très intéressant de pouvoir participer au montage, à la création de son texte, parce qu'on sent tout de suite... quand le comédien essaye d'incarner vos mots, on sent tout de suite si ça colle ou si ça colle pas. On sent tout de suite si ça passe le cap de la scène ou pas. Et finalement, encore aujourd'hui, quand bien même j'écris des romans, je me sers de cette expérience-là, à l'oreille probablement, pour essayer de bien dessiner mes personnages. Donc, d'une certaine façon, ce sont deux manières d'écrire très différentes, le théâtre et le polar. Et en même temps, il y a une forme de continuité dans la recherche, peut-être on en parlera, mais il y a aussi une forme de continuité dans la manière de dessiner mes personnages.
Et comment s'est fait le glissement du coup? Tu avais envie d'une énigme?
Alors le glissement, il y a eu deux choses en fait, ou trois. Bon, la première, c'est qu'après 15 ans d'écriture théâtrale, j'avais aussi envie d'ouvrir une porte nouvelle. J'avais envie d'avoir plus de place aussi, c'est-à-dire la pièce de théâtre, c'est un format court, hein, ça dure 1h30, 2h. Et j'avais envie justement, parce que je m'intéressais de plus en plus aux personnages et peut-être un peu moins à l'intrigue, j'avais envie de pouvoir creuser les choses un peu plus profondément. Et finalement, l'élément déclencheur qui m'a fait basculer, il y en a eu deux. La première chose, ça a été un concours de circonstances. En fait, il y a quelques années, j'ai travaillé quelque temps à la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'était un petit boulot il y a 7-8 ans. J'y ai travaillé deux étés et j'étais surveillant. Et le surveillant à Notre-Dame, il a une fonction principale, c'est de faire en sorte que ça se passe bien entre les deux types de populations qui fréquentent la cathédrale, c'est-à-dire les touristes d'une part et les fidèles d'autre part. Sachant que ces deux types de populations n'ont pas du tout les mêmes objectifs et les mêmes types de comportements, évidemment. Alors, le surveillant, c'est un super poste d'observation, hein, puisqu'on tourne dans la cathédrale, on fait en sorte que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. Mais évidemment, moi, derrière, je pense que j'avais toujours aussi l'œil et l'oreille de l'auteur qui était aux aguets. Et pendant ces deux étés, j'ai été témoin d'un certain nombre de scènes, j'ai vu un certain nombre de personnages, j'ai entendu des phrases, des morceaux de musique, parce que la musique est très présente à Notre-Dame. J'ai vu des images exceptionnelles, que ce soit du point de vue architectural, du point de vue, disons, religieux, mais du point de vue humain, tout simplement. Et donc, j'ai su assez vite, en fait, dès les premiers jours là-bas, que j'aurais envie d'écrire une histoire qui se passerait à Notre-Dame de Paris. Mais je savais aussi que ce ne serait pas une pièce de théâtre parce que déjà, Notre-Dame est un lieu très théâtral. D'une certaine façon, il y a une scène sur laquelle on joue le rituel de la messe. Et je me disais, si tu écris une pièce de théâtre se passant à Notre-Dame, il y aura quelque chose de redondant. Donc en fait, je cherchais à faire le portrait de ce lieu exceptionnel, puisque finalement, c'est le personnage principal de ces deux romans. Je cherche à faire le portrait de cette cathédrale, puisque j'en avais vu les coulisses, mais de façon un petit peu décalée. Et c'est la manière, le roman policier, c'est ce décalage que j'ai choisi, c'est-à-dire que finalement, je n'ai pas présenté la cathédrale comme un lieu touristique ou comme un lieu religieux. Bien sûr, je l'ai fait, mais j'ai surtout présenté ça comme une scène de crime. Et c'était une manière d'apporter un éclairage un petit peu différent sur ce lieu-là. Après, il y a eu aussi un vrai déclencheur qui était la lecture d'un livre qui était un essai sur le roman policier. C'est un essai qui ne date pas d'hier, parce qu'il a été écrit dans les années 1920, qui a été écrit par un Allemand, Krakauer, qui était aussi critique de cinéma. Et en fait, dans cet essai, Krakauer faisait un parallèle entre l'église et le commissariat de police, entre le prêtre et le commissaire. Il disait parce que dans les deux cas, l'enquêteur et le prêtre sont à la recherche d'un pécheur en quête de rédemption. Ils cherchent à libérer une parole qui cherche à se confesser. Alors c'était le parallèle qu'il dressait. Moi qui suis un grand admirateur de Simenon, et j'ai toujours senti que Maigret avait cette dimension de confesseur, j'ai tout simplement choisi de prendre Krakauer au pied de la lettre d'une certaine façon, et donc j'ai inventé un personnage de prêtre enquêteur. C'est le père Kern, on en parlera probablement.
Donc il y a des personnages qui peuvent être vrais, qui se dessinent là. Mm-hmm. Bon, alors on a planté le décor, la cathédrale de Notre-Dame, voilà. Et je comprends mieux dans comment tu nous as fait plonger dans les arcanes, puisque tu connais le lieu, quoi. Et les lieux, c'est vrai que chez toi, on en reparlera, les lieux sont très importants. C'est comme si ça servait plus que le cadre, quoi. Hein. C'est
oui,
une toile de fond, comme un tableau. Hein.
Voilà, si on prend l'exemple de la cathédrale Notre-Dame, je l'ai vraiment perçu comme un organisme vivant. Hein, de toute façon, c'est un bâtiment qui a la forme d'une croix, donc qui a la forme du Christ sur sa croix. Mais c'est vrai aussi que c'est un lieu dans lequel il y a une forme de circulation, presque une circulation sanguine, qui est très impressionnante. D'abord, évidemment, il y a le flot des touristes. Surtout moi, j'y travaillais en été. Donc en été, il y a 50 000 visiteurs qui traversent le lieu tous les jours. Qui rentrent là-dedans et puis qui tournent. Il y a vraiment quelque chose d'assez ébouriffant, en fait, dans cette manière qu'ont les touristes de rentrer, de sortir. Parfois, il y a des embouteillages. Quand il y a des orages à l'extérieur, plus personne ne veut sortir, donc il y a des embouteillages dans la cathédrale. Et puis, en même temps, ces touristes tournent autour du cœur de la cathédrale, enfin, du cœur et de la nef, dans lesquels il y a les fidèles. Donc ce sont deux rythmes différents qui se côtoient et c'est vraiment ça qui m'a fait penser que ce lieu-là a quelque chose d'infiniment vivant parce qu'il y a des courants de circulation qui sont contradictoires. Il y a aussi des langues, évidemment, qui habitent, qui remplissent ce lieu, c'est-à-dire que c'est une véritable tour de Babel, cette cathédrale. C'est à la fois un lieu d'identité très forte, puisqu'on vit le rituel de la religion à l'intérieur, et en même temps, c'est le monde entier qui s'engouffre à l'intérieur, et toutes les langues du monde qui résonnent sous les voûtes. Donc tout ça m'a réellement fait choisir la cathédrale Notre-Dame comme un lieu vivant et comme un personnage. Donc en effet, plus qu'un décor, c'est un des personnages de mes romans.
Alors évidemment, nous sommes dans des romans policiers. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les arcanes de Notre-Dame ? Dans le premier, dans la Madone, on va découvrir une jeune femme d'une beauté irréelle, dans une robe blanche. Croit-on en train de prier, le regard fixé sur la Vierge ? Or, en fait, elle est morte. Et une grosse Américaine qui s'assoit près d'elle va faire tomber le corps. Une scène choc dès le début, pour nous happer. Dans Évangile pour un gueux, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On est à la morgue. Scène d'autopsie, un clochard sorti de la scène. Donc tu as des scènes fortes pour induire le lecteur déjà tout de suite dans une histoire forte, pour nous happer.
Oui, et puis Ben, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée d'incarnation est très importante chez moi. L'incarnation, la représentation vivante de Notre-Dame, mais aussi les corps, c'est très important chez moi. Alors évidemment, quand on écrit un polar, le corps de la victime, c'est important. Mais dans les deux cas, j'ai aimé démarrer par une description assez fouillée, assez détaillée du corps de la victime. C'est peut-être encore plus fouillé dans le deuxième parce que donc on retrouve en effet un jeune clochard noyé dans la Seine. Et donc la scène d'ouverture, c'est la scène d'autopsie de ce clochard. Et il se trouve que quand on l'a retrouvé noyé dans la Seine, il avait aussi, on lui a infligé les stigmates du Christ en fait. Donc il a des trous aux mains et aux pieds, une blessure au côté. Et donc le médecin légiste qui va réaliser l'autopsie remarque ça en premier évidemment et fait tout de suite le parallèle avec le Christ. Et le légiste est un grand amateur de peinture aussi et il va faire le lien avec tout un tas de peintures de la Renaissance qui décrivent le corps du Christ et notamment une peinture de Mantegna qui dépeint le Christ sur son lit de mort. Donc c'est pour moi très important quand on entre dans un roman de prendre immédiatement en compte la dimension charnelle des personnages et y compris des victimes en fait.
Et dans la Madone, il y a un détail troublant parce que le cadavre de cette jeune femme a subi un sort particulier.
Oui, en fait donc c'est une jeune femme vêtue de blanc, mais pas de façon religieuse, au contraire, elle est vêtue de façon assez sexy, en mini-jupe, et elle a tout de suite attiré l'œil, elle est assise en position de prière sur un banc, et elle a tout de suite attiré le regard des sacristains et des surveillants, qui ont eu quelques remarques un peu graveleuses au départ, et puis en effet, quand elle s'est effondrée sur son banc et qu'on a réalisé qu'elle était décédée, on a changé de registre. Et il y a en effet un détail très particulier, c'est que le médecin légiste qui vient sur les lieux du crime remarque tout de suite, dès le premier examen, qu'en fait, son vagin a été scellé à la cire de cierge, comme si on avait cherché à lui refaire une virginité. Donc c'était un détail aussi, un petit peu comme dans Évangile pour un gueux, le deuxième livre, un détail qui va mettre les enquêteurs sur une certaine piste. Alors est-ce que ce sera la bonne? Ça c'est une autre question. Voilà.
C'est là qu'interviennent les personnages d'enquêteurs, puisque tu as créé un duo de flics. Mm-hmm. Le commandant Danglars, le lieutenant Grombrowicz, comment tu les as inventés?
Alors... j'ai eu envie, c'est quasiment une nécessité quand on écrit un roman policier d'avoir des personnages de policiers. J'avais pas forcément envie que ce soit les personnages principaux, mais j'avais envie de former un couple qui soit au départ presque un couple cliché de policiers. J'avais envie de partir un petit peu sur un cliché volontairement pour arriver à mieux m'en détourner, pour arriver à mieux jouer avec les clichés. Donc là, j'ai créé en effet un personnage de vieux roublard, le commandant Landard, et de jeunes lieutenants de police, le lieutenant Gombrowicz. Ils forment une paire depuis pas très longtemps au départ, donc ils apprennent à se connaître. Et ils ont aussi une fonction dans les deux romans, c'est-à-dire qu'ils sont aussi une sorte de ressort comique. Et ils s'inscrivent aussi en complémentarité du deuxième duo d'enquêteurs, celui-là beaucoup moins classique dans ses romans, qui est formé par une magistrate et un prêtre de Notre-Dame. Donc en fait, on a le duo classique, presque cliché au départ, le commandant Landard et le lieutenant Gombrowicz, et puis devant leurs insuffisances, devant les insuffisances de la police, un deuxième duo d'enquêteurs, beaucoup plus anticonformiste, est amené à prendre le relais et qui est donc formé par une juge d'instruction et par un prêtre de la cathédrale, le père Kern. Donc, en fait, c'est deux duos d'enquêteurs qui apportent chacun des informations à l'enquête. Les flics font aussi leur travail, évidemment, Mais il y a un moment où ils arrivent à une certaine forme de limite. Et dans ces cas-là, c'est le deuxième duo d'enquêteurs, Claire Kaufmann et le père Kern, qui prennent le relais, notamment parce que eux, ce deuxième duo d'enquêteurs, eux ont cette dimension de confesseur, ce potentiel de confesseur, c'est-à-dire d'empathie et d'écoute que les deux flics n'ont pas forcément. Donc en fait, j'ai réellement construit ces deux couples-là, ces deux paires d'enquêteurs, en complémentarité. Ça me paraissait important de procéder comme ça.
Alors pour fouiller peut-être un peu plus le duo, il y a un clochard qui parle de Landard et Gombrowicz comme Laurel et Hardy. Ça revient à ce que tu disais.
Ben c'est ça, c'est-à-dire que ils ont, enfin, peut-être d'ailleurs je pourrais lire un extrait pour illustrer, c'est peut-être le plus simple, mais ils ont réellement par moment une fonction comique. Ça m'a toujours semblé important dans le roman policier qui décrit des univers très noirs. Ça m'a toujours semblé important d'avoir par moment des passages de décompression comique. Parce que ce sont ces passages-là, justement, qui permettent d'aller aussi assez loin dans le côté noir. C'est-à-dire que ça me semble important de garder une forme d'équilibre, de ne jamais aller dans la complaisance du trop noir. Et c'est pour ça que je veille toujours, un petit peu comme dans l'écriture d'une pièce musicale, à avoir aussi des moments plus légers, finalement. Et Landard et Gombrowicz, en même temps que, évidemment, ils ont une fonction dans l'enquête, apportent aussi ces moments de second degré, on va dire.
Et les noms Gombrowicz, j'ai pensé à l'écrivain polonais, bien sûr. Est-ce que c'est une allusion ?
Alors, un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a dans les personnages de Gombrowicz, il y a souvent une immaturité qui m'intéressait et que j'avais envie de mettre dans le personnage de ce jeune lieutenant. C'est-à-dire que Gombrowicz, c'est un garçon qui se rêverait Robert De Niro ou Al Pacino. C'est-à-dire, il met des Ray-Ban, il a tout le temps, il porte des t-shirts New York Police Department. Il se rêve, lui aussi. L'image qu'il a de lui-même, ce serait un petit peu le flic, comme ça, ce serait De Niro, quelque chose de très viril. Or, en fait, on réalise au fil du temps, au fil des deux romans, et il a une évolution assez intéressante, c'est qu'il parvient au fil du temps à mieux se comprendre au fil des enquêtes et à mieux comprendre, à mieux prendre en compte sa part de féminité, c'est-à-dire sa part instinctive en fait. Et ça, il le fait notamment en côtoyant le père Kern et la jeune magistrate Claire Kaufmann. Donc lui, il est un petit peu pris en sandwich entre le commandant Landard, qui est un macho absolument invraisemblable, et qui essaye de le former à sa vision des choses et à sa vision de l'enquête et de la police. Et en même temps, il réalise que lui se sent mieux et avance beaucoup mieux dans son enquête quand il procède de manière un peu plus instinctive et en travaillant avec la magistrate, voire avec le prêtre. Donc c'est une évolution qu'il fait mûrir au fil des deux romans. Donc je reviens au nom, c'est pour ça, j'avais envie d'avoir un personnage immature, mais qui au fil des romans évoluerait beaucoup. Et puis Landard, le nom Landard.
Oui, alors tu sais, la première fois que j'ai lu Danglars, moi.
Oui.
C'est un hommage à Fred Vargas, Danglars. Mais non, c'est pas oui, Danglars, c'est non, c'est Landard.
Alors non, Landard n'est pas un hommage à Fred Vargas.
Excuse-moi.
Non.
C'est la même maison d'édition, bon.
J'avais envie de partir sur un... Au début, j'avais en tête un nom qui ne pouvait pas être le nom, mais j'avais tout le temps en tête Viandard. Alors ça aurait été peut-être un peu trop illustratif, bon en plus commandant Viandard ça aurait été un peu trop, mais du coup ça s'est lentement transformé en Landard. Je peux pas te dire pourquoi exactement c'est arrivé avec un L au début, L-A-N-D, etc. Mais je crois que ça s'est fait aussi à l'oreille. Mais au départ, voilà, je suis parti de Viandard, ça aboutit à Landard. Voilà, c'est aussi mon avis. Et donc, voilà. Alors, Landard n'est pas, je dirais pas que c'est le personnage le plus subtil de mes romans, mais par contre, c'est bien de pas être trop, de pas trop appuyer sur les choses non plus, bien sûr.
Et puis, il y a aussi cette étonnante jeune femme, Claire Kaufmann, qui dans le premier est substitut du procureur, qui dans le deuxième est devenue juge d'instruction.
Voilà, oui.
qui est une femme, une maîtresse femme étonnante, mais avec ses failles. Tous les personnages ont une faille, en fait.
Oui, alors Claire Kaufman, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui, dans la Madone de Notre-Dame, en effet, est substitut du procureur et puis qui est devenue juge d'instruction dans le deuxième parce que, justement, en tant que substitut, elle avait du mal à se soumettre à la discipline par rapport à sa hiérarchie et elle avait une nette tendance à n'en faire qu'à sa tête. Et finalement, on l'a mise un petit peu à l'écart parce que on a estimé dans sa hiérarchie qu'elle avait fait des bêtises dans la Madone de Notre-Dame. Et en même temps, on a pensé que juge d'instruction, qui est un poste plus indépendant, ça lui conviendrait mieux. Et à moi aussi, ça me convenait mieux, en fait, qu'elle soit juge d'instruction. Donc, elle aussi, en fait, c'est en effet, elle a une très large évolution à travers les deux romans. Et elle aussi... elle se découvre elle-même, elle se révèle à elle-même à travers les enquêtes. Au départ, c'est quelqu'un d'extrêmement rigide dans son comportement. C'est une assez jolie fille, très féminine, mais elle a vraiment une armure. Elle a une armure qui fait qu'on a l'impression que rien ne l'atteint et qu'elle se protège de pas mal de choses, y compris à l'intérieur du palais de justice. Landard, donc pas très fin comme on le devine, l'appelle Miss Petsec. Parce qu'en effet, elle est assez sèche. Et finalement, de fil en aiguille, et à travers sa relation qu'elle crée avec le père Kern, on apprend énormément de choses sur elle. On apprend qu'elle a des rayures, des failles, qu'elle est abîmée par rapport à certains événements douloureux de sa jeunesse, et que c'est ça qui a fait qu'elle s'est constituée une forme d'armure. Et évidemment, pour un romancier, quand on construit un personnage comme celui-là, ce qui est intéressant, c'est de fendre l'armure, de voir ce qu'il y a en dessous et de voir de quelle manière elle évolue, elle arrive à s'ouvrir à travers les rencontres qu'elle peut faire dans mes romans. Donc ce sont un peu comme Gombrowicz finalement, et d'ailleurs ils apprennent à travailler ensemble de mieux en mieux au fil des deux livres. Claire Kaufman évolue énormément et se découvre à elle-même. Et d'ailleurs moi, entre les deux livres, j'ai découvert beaucoup de choses de cette jeune femme, c'est-à-dire que dans Évangile pour un gueux, j'ai découvert des choses de Claire Kaufman que je ne connaissais pas en écrivant La Madone de Notre-Dame.
Donc l'écrivain se surprend.
Ah oui, toujours. C'est très très important de se surprendre. Dans la phase d'écriture, moi j'aime bien avoir une structure assez nette avant de commencer à écrire, c'est-à-dire pour un plan, quoi. J'aime bien avoir un plan. Il me semble que le polar, ça a une forme de mécanique qui doit tourner rond. Mais justement, d'avoir ce plan-là, ça me permet un peu paradoxalement de pouvoir louvoyer assez régulièrement, d'avoir des grandes phases de liberté et de découvrir et d'inventer en phase d'écriture des choses sur mes personnages qui me surprennent moi-même. C'est très très important, je crois. Je parle toujours d'organicité, d'incarnation, d'être vivant, un peu comme la cathédrale. Un livre aussi, ça doit être organique, ça doit être vivant. Et si on veut surprendre le lecteur, il faut qu'on se surprenne aussi soi-même dans l'écriture.
Tu as le plan, mais est-ce que tu as la fin au départ ou...
Oui, j'ai à peu près la fin. Je sais où je vais. Je sais qui est l'assassin, évidemment. Mais ça se fait... L'écriture, c'est à peu près une année d'écriture et une année de préparation, en gros. Donc il y a une phase de documentation qui est assez importante. Et puis il y a aussi une phase de réflexion, de rêvasserie sur les personnages, sur l'intrigue. Donc c'est une intrigue qui, dans ma tête et sur le papier, se construit assez lentement. C'est comme un puzzle qui s'assemble tranquillement et dont je m'amuse à bouger les pièces. Et en général, tout est à peu près en place quand je me mets à écrire. Mais encore une fois, ça n'empêche pas qu'en cours d'écriture, il y a encore pas mal de choses qui bougent, des rencontres, voire même des personnages qui apparaissent. Donc tout ça, c'est une sorte d'équilibre à trouver entre un chemin qui est déjà un petit peu tracé à l'avance et en même temps quelques sorties de piste ou quelques sorties de route qui pour moi sont absolument nécessaires.
D'ailleurs, il y a eu 2 ans d'écart entre les deux livres et je trouve que...
Oui.
ton histoire et ton style ont gagné en maturité entre les deux.
Ouais. Ben, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'ai écrit La Madone de Notre-Dame et puis ensuite, je suis revenu à mes activités d'écriture théâtrale. C'est-à-dire on m'a passé commande de deux pièces. J'ai écrit les deux pièces et j'ai participé à leur création. Et en même temps, je sentais que les personnages de La Madone de Notre-Dame étaient toujours là et qui me disaient on n'a pas tout dit, on aimerait bien revenir. C'est-à-dire que je sentais que j'en avais encore sous la pédale. Et c'est pour ça qu'une fois ces deux pièces de théâtre terminées, j'ai fait le choix de revenir à ces personnages-là, ce qui d'ailleurs n'était pas prévu au départ. C'est-à-dire qu'en écrivant La Madone de Notre-Dame, je n'avais pas pensé qu'il y aurait une suite. Et en fait, ce sont vraiment les personnages qui m'ont fait... Enfin, j'ai plutôt pensé que les personnages n'avaient pas tout dit, qu'ils avaient encore énormément de choses à raconter. Et finalement, le fait de trouver une seconde intrigue policière, ça c'est presque un détail. C'est-à-dire que ce qui m'a motivé pour repartir pour un deuxième tour avec eux, c'est que ces personnages-là avaient encore beaucoup de marge de manœuvre. En fait, j'avais encore besoin et envie de raconter énormément de choses. Et puis, il faut dire aussi que ces personnages-là, notamment Claire Kaufmann et le père Kern, m'aident beaucoup à porter un certain regard, un regard un petit peu distancié sur la réalité. Ça m'aide à porter un regard sur Paris, sur la France, sur un certain nombre de crispations sociales qu'on peut avoir dans notre pays. Et le regard de ces personnages-là, qui est à la fois le mien et en même temps un regard de fiction, m'aide beaucoup moi-même à réfléchir à toutes ces questions-là. Et j'ai eu besoin d'approfondir un certain nombre de questions, notamment sur les questions religieuses et sociales. J'ai eu besoin d'approfondir ces questions-là, mais encore une fois, à travers le parcours de la fiction, à travers le regard de mes personnages.
Oui, on va y venir, oui, tout à fait. Ouais. Je voulais juste rajouter sur Claire Kaufmann que j'ai rêvé de son chignon. À l'image de Gombrowicz qui en est amoureux, il y a des pages très très savoureuses où il guette le chignon qui pourrait s'effondrer, mais comment est fait pour faire tenir un tel édifice ? C'est tendre, c'est beau, c'est attachant. C'est...
Ouais, Gombrowicz est dingue de Claire Kaufmann.
Et on sourit beaucoup, quoi.
Et alors, il est absolument fasciné par sa chevelure, elle a une jolie chevelure blonde, mais qu'elle attache toujours avec des chignons assez sévères, comme ça. Et lui, il n'a qu'un seul fantasme, c'est qu'un jour, le crayon qui tient le chignon, parce qu'elle tient toujours ses cheveux en passant un crayon à papier dans sa chevelure, il n'a qu'un seul fantasme, c'est que le crayon tombe et que la chevelure se répande sur ses épaules. Et il se dit, le jour où la chevelure tombera, là, il imagine tout un tas de trucs plus ou moins érotiques, mais en tout cas, le jour où la chevelure tombe, je l'invite à déjeuner, je lui dis tout, etc. etc. Et donc, il attend impatiemment à chaque fois qu'il arrive dans le cabinet de la juge. Il attend impatiemment que le chignon tombe. Et évidemment, il y a une fois quand même où elle enlève le crayon pour prendre des notes. Donc, ils se sont dit, ça y est, ça va tomber. Et en fait, au moment où le chignon va tomber, évidemment, elle rattrape et elle remet le crayon.
On attend, nous, hein, aussi, que le chignon s'effondre.
Ce qui est terrible, c'est qu'elle tient ses cheveux attachés au palais de justice. Sinon, quand elle est chez elle, évidemment, elle a les cheveux défaits. Donc, ça, c'est quelque chose que Gombrowicz ne voit pas.
Et le père Kern, alors ? François Kern, qui a une taille étonnante, tout petit, 1m48, et tu lui as collé...
Il a une maladie depuis l'enfance, qui en gros se traduit, c'est une maladie très rare, qui se traduit par des crises d'arthrose très violentes. Il a eu ça depuis tout petit, ce qui fait que les traitements qu'on lui a donnés pour... non pas pour se soigner, parce que ça ne se soigne pas, mais pour les douleurs soient moins fortes. Les traitements qu'on lui a donnés ont très fortement perturbé sa croissance. Et donc, en effet, c'est un petit bonhomme d'1m48. Donc, pas exactement ce qu'on pourrait appeler un super-héros de roman policier. Et c'est aussi quelqu'un qui, même dans l'âge adulte, continue régulièrement à avoir des crises violentes d'arthrose qui le clouent au lit pour quelques jours.
Alors, on peut vraiment avoir de l'arthrose enfant ? C'est une invention d'écrivain ou c'est possible ?
Non, c'est une vraie maladie, qui est une maladie très rare, on ne sait pas d'où ça vient, et qui se manifeste par des crises articulaires très graves, par des poussées de fièvre très fortes et par des démangeaisons sur tout le corps. Voilà, donc c'est des symptômes très particuliers. et qu'en général, on peut avoir dès l'enfance. C'est une maladie qui s'appelle la maladie de Still et qui, en majorité, démarre à l'enfance, mais qui peut aussi démarrer à l'âge adulte. Voilà. Ça reste encore très mystérieux. Et en tout cas, on ne sait pas la soigner. Et la seule chose qu'on peut donner, ce sont des doses massives de cortisone pour soulager. Cette maladie-là, c'est celle qui afflige le père Kern. Et lui essaie de vivre avec, évidemment. Et je crois qu'il a fait un mélange dans sa tête entre ça et sa foi, c'est-à-dire que ces crises très douloureuses lui permettent aussi d'avoir une forme d'empathie envers la douleur du monde. Et je crois que c'est sa manière de vivre aussi la maladie et de vivre sa foi qu'il a mélangée dans une seule et même bulle. Et c'est vrai que la maladie est très présente dans ce personnage et du coup, elle est assez présente aussi dans le livre.
Est-ce que tu veux parler de sa faille, son frère Augustin ?
Alors, en effet, le père Kern avait un grand frère quand ils étaient jeunes, ils formaient la paire, bien qu'ils soient très très différents, puisque le père Kern, enfin François Kern, le petit François était déjà malade, gamin. Il est brun, alors que son grand frère Augustin est grand, sportif, élancé et blond. Et pourtant, quand ils étaient gamins, ils avaient une complicité extraordinaire. Et c'est notamment Augustin, donc le grand frère, qui a, au sens propre du terme, tenu la main de son petit frère quand il avait toutes ces crises et quand il était à l'hôpital, etc. Donc il y avait une relation très forte. Et puis il y a eu un certain nombre de choses, d'événements qui ont fait basculer la vie d'Augustin, donc le grand frère. Augustin, à l'adolescence, a basculé dans la drogue et puis dans la délinquance. Il a été emprisonné. Et puis, son histoire a mal fini. Son histoire a mal fini et le François Kern, donc le petit François, est devenu prêtre. Et toute sa vie, il s'en est voulu parce que son frère a mal terminé. Il porte une part de culpabilité qui est très grande. Il pense régulièrement à son frère Augustin. Je ne sais pas trop quoi dire sans dévoiler trop de choses sur leur histoire, en fait.
Oui, mais enfin, on peut dire qu'il est aumônier à la centrale de Poissy.
Oui, tout à fait. Alors,
et remplaçant l'été à Notre-Dame.
Voilà. Le grand frère Augustin a été emprisonné. Il a fait pas mal de prison. Et dans son rapport à son frère, le père François Kern, une fois devenu prêtre, est devenu aussi aumônier de prison. Donc, d'une certaine façon, il court toujours avec un temps de retard après le destin tragique de son frère. Il essaie toujours de rattraper les choses parce qu'il s'en veut, d'une certaine façon, de ne pas avoir été assez présent au moment où son frère Augustin avait besoin de lui. Donc, il est dans un rapport très particulier à la culpabilité qui explique un certain nombre de ses comportements.
Mais tous tes personnages sont très touchants. Du coup, le rapport au temps avec cette histoire curieuse de réveil, est-ce que tu veux en dire plus ? Je trouvais ça très beau.
Oui.
Il remonte un réveil.
Ça, je pense que ça me vient du théâtre, en fait. J'aime bien utiliser des accessoires qui sont très chargés symboliquement parce qu'il y a des manières de raconter toute une histoire avec assez peu de mots, en fait, quand on utilise un élément de décor ou un élément d'accessoire. Et il se trouve que le père Kern possède un réveil qui est un vieux réveil Bayard qui lui a été offert par son frère Augustin quand il était petit, qu'il a acheté dans une brocante. C'était un vieux réveil qui ne marchait pas. Et en fait, le père Kern, quand il a ses crises articulaires, le père Kern, pour concentrer son attention sur autre chose que la douleur, monte et démonte de façon un peu obsessionnelle son vieux réveil Bayard pour oublier la douleur, mais aussi d'une certaine façon pour arriver à oublier le passage du temps ou à faire revenir le temps en arrière. Enfin voilà, encore une fois, il y a tout un rapport à la culpabilité vis-à-vis de son frère qui est très présent chez le père Kern. Et le vieux réveil Bayard qui passe son temps à démonter à chaque fois qu'il a une crise est l'illustration vraiment très concrète de ça.
Alors là, on a parlé des personnages principaux, le commandant Danglars, le lieutenant Gombrowicz.
Gendarme.
Oh, j'y tiens. Ouais. Excuse-moi, mille excuses. Hein. Claire Kaufmann et le père Kern.
J'aurais mieux fait de l'appeler Viandard.
Bon, mea culpa. Mais après, il y a toute une galerie de personnages secondaires, enfin, qui ne sont pas si secondaires que ça, parce que aussi, tu les fais vivre avec une dimension, une épaisseur. Alors, dans la Madone, ce sont les égarés, oui, les égarés de Notre-Dame. Et dans Évangile pour un gueux, tu agites tout ce petit monde des sans-abri, oui, des SDF. Car la deuxième enquête tourne autour du droit au logement. Donc là, on va rentrer dans ta dimension sociale, en toile de plan, et tous les laisser pour compte, c'est quelque chose qui te touche, on le sent de toute façon. Hein.
Oui, et c'est quelque chose... dans la Madone de Notre-Dame, il y a en effet ce que j'appelle les égarés de Notre-Dame. Vivienne Ami appelle ça mes gargouilles.
Oui, j'ai pensé.
Oui, ouais, ouais, elle me dit souvent, elle me parle souvent de mes gargouilles. Et en fait, c'est ce que j'ai appelé les égarés, ce sont des personnages qui tournent, qui errent dans Notre-Dame et que moi j'ai vu, c'est-à-dire qui sont très directement inspirés de ma réalité, de ce que j'ai vu quand j'y travaillais. Et on pourrait penser que ce sont des personnages secondaires de la cathédrale, c'est-à-dire que à partir d'un moment, comme ils sont là tous les jours, on ne les voit plus. Et en même temps, comme on est dans un lieu où, en effet, je parlais de la circulation quasi sanguine tout à l'heure, on est tout le temps dans un lieu en mouvement comme ça. Eux, ce sont des personnages à l'arrêt. Il y a un personnage qui s'appelle Madame Pipi dans la Madone de Notre-Dame. Non pas parce qu'elle gère les toilettes de la cathédrale, mais parce que c'est une vieille dame qui vient passer ses journées-là, toujours assise sur la même chaise, et qui de temps en temps fait sous elle. Donc les surveillants qui doivent venir nettoyer ensuite l'appellent Madame Pipi. Bon, c'est une vieille dame qui regarde toujours les choses autour d'elle avec des grands yeux un peu paniqués comme ça, mais qui ne dit jamais mot. Et évidemment, comme elle ne parle pas, comme elle est toujours là, on a fini par l'oublier. Or, il se trouve que c'est un témoin absolument fondamental de la cathédrale, justement parce qu'elle est là tous les jours et parce qu'elle voit tout, mais elle ne dit rien. Il y a aussi un autre personnage, qui est le personnage d'un clochard polonais, Christophe, qui est là aussi à longueur de journée. Et Christophe, il était là à la cathédrale pour de vrai, toujours avec sa doudoune rouge. Il y a une scène que je décris dans la Madone de Notre-Dame où Christophe vient faire sa toilette, se nettoie les oreilles dans le bénitier de la cathédrale. C'est quelque chose que j'ai vu. Je suis allé voir le clochard en lui disant non, on ne peut pas faire sa toilette dans le bénitier. Mais il y a tout un tas de petites anecdotes comme ça qui sont directement tirées de la réalité, qui, je crois, m'aide à donner de la chair à mes personnages. Et en fait, c'est à partir de ces personnages dégarés de la Madone de Notre-Dame que j'ai eu envie de développer ça. C'est-à-dire, finalement, ces personnages dégarés, j'ai eu envie de les mettre au centre d'un nouveau roman. Et ça a été l'une des idées de départ d'Évangile pour un gueux. J'avais envie de centrer mon roman sur ces SDF, sur ces gens un peu paumés comme ça qui fréquentent la cathédrale ou les alentours de la cathédrale. J'avais envie d'en faire le personnage ou les personnages principaux d'un roman, et ça a été l'une des idées de départ d'Évangile pour un gueux.
Est-ce que tu voudrais nous lire un passage?
Donc les deux policiers, Landard et Gombrowicz, vont enquêter dans le milieu des clochards, puisque comme je disais, on a retrouvé noyé dans la Seine le corps de l'un d'entre eux, un jeune clochard. Et donc Landard et Gombrowicz, que la juge d'instruction Claire Kaufmann envoie en enquête, vont explorer les abords de la Seine, les quais de Seine, et notamment ce qu'on appelle le musée de la sculpture en plein air de Paris, qui est un grand jardin, en fait, où la nuit, certains clochards se retrouvent pour dormir. Et en effet, les quais paraissaient se vider de leurs promeneurs à mesure que les deux officiers progressaient vers l'amont et que l'obscurité gagnait le lit du fleuve. Ils rejoignirent le pont de la Tournelle. Bientôt, des silhouettes furtives s'animèrent entre chiens et loups, sortant d'on ne savait trop où, des piles du pont, des arbres, des buissons, des interstices de la muraille qui les séparaient du trafic automobile quelques mètres plus haut. Elles progressaient, bancales, clopin-clopant, flottant dans des habits trop grands et à bout de souffle, posant le pied sur chaque pavé comme sur un œuf ou un savon glissant. Les deux policiers avaient le pont-sully en point de mire. Les ombres se constituaient désormais en petits groupes, des hommes essentiellement, dont il était presque impossible de déterminer l'âge, tant leur démarche incertaine évoquait des chapelles en ruine sur le point de s'écrouler. Parfois, une silhouette de femme ensevelie sous d'épaisses couches de vêtements qui lui donnaient l'allure d'un sac, avançait à petits pas, avec une lenteur exaspérante, soit pour rejoindre les hommes, soit pour se mettre à l'écart. Ils rejoignirent le port Saint-Bernard, où les berges de la Seine accueillaient le musée de la sculpture en plein air. Là, sur la longue esplanade, où le béton se disputait à la verdure, parmi les œuvres de bronze ou de marbre qui projetaient leurs ombres tourmentées sur le sol, une communauté de clochards dépliait ses sacs de couchage, montait des tentes, assemblait palettes, bâches et couvertures, éléments constitutifs des abris de fortune sous lesquels elle s'apprêtait à passer la nuit. Un monde se reformait ainsi, soir après soir, après s'être évanoui durant les heures du jour, dissimulé derrière la haie d'un square, fondu dans le métal mat d'un abribus, après avoir erré de métro en métro, de quai en quai, de rame en rame pour y faire la manche. Aller voir se figer au milieu d'un geste, frappé d'hébétude, immobile au point de se demander s'il n'avait pas été changé en pierre, il était parfois difficile de distinguer les humains des sculptures.
Clodoville,
oui, c'est comme ça que Landa rappelle ce camp de SDF dans lequel ils vont enquêter.
Ou le petit musée des horreurs de notre France glorieuse.
Ouais.
C'est terrible, hein?
C'est terrible et en même temps, ce type de population n'est pas souvent mis en avant, ou en tout cas... On parle des clochards en général au moment de Noël ou quand il y a des vagues de froid. On en parle dans les médias. Et puis sinon, on n'en parle pas. Un petit peu comme dans Notre-Dame, comme quand je disais tout à l'heure que les égarés de Notre-Dame sont des personnes à l'arrêt dans une église qui est en mouvement. Ça s'applique tout à fait à n'importe quelle grande ville. C'est-à-dire qu'on a le rythme d'une ville qui est en général toujours un petit peu hystérique, avec des gens qui marchent, qui bougent, qui se déplacent, des trains, des trams, des bus qui passent. Et puis on a cette population de gens à l'arrêt, qu'on finit par ne plus voir parce qu'ils sont hors rythme, ils n'ont pas le même rythme que les autres. Et finalement, quand on fait l'effort de rentrer dans leur rythme, de les observer et puis de parler un petit peu avec eux, ben, on peut tout de suite avoir l'envie de consacrer du temps à eux et notamment de consacrer un roman. Moi, c'est l'envie que j'ai eue, puisque je suis romancier, je ne travaille pas dans le social, mais à ma manière, j'ai eu envie de dépeindre ces personnages-là parce que je les ai longuement observés, j'avais envie de parler d'eux.
Et il se trouve que le jeune clochard retrouvé assassiné, Mousse, enfin assassiné ou noyé, on n'a rien dévoilé encore, était le porte-parole des clochards pour le droit au logement. Ils ont investi Notre-Dame de Paris. Était le meneur, le leader.
Voilà. Alors en fait, l'intrigue d'Évangile pour un gueux, donc on retrouve ce jeune garçon, Mousse, qu'on identifie très vite comme un jeune clochard. On le retrouve noyé au moment de Pâques. Et il se trouve que quelques mois plus tôt, au moment de Noël, Mousse et une dizaine d'autres clochards parisiens avaient investi la cathédrale au nom du droit au logement. Alors, au départ, Mousse n'avait pas d'idées préconçues, d'idées politiques, n'avait pas de revendications. Il se trouve qu'il y a eu un contrôle de police qui a mal tourné. Donc, on est à Noël, il fait très froid. Et Mousse est tombé dans la Seine. Donc, il a pris un bain forcé. Quand il ressort de là, quand on le tire de là, il est absolument frigorifié. Il refuse l'assistance du SAMU social. Mais il est trempé et donc il est en train de tomber malade et il va forcer la porte de la cathédrale Notre-Dame le matin à l'ouverture. Il va rentrer avec une douzaine de clochards et dans sa fureur et dans le froid qui le tenaille, eh bien, il met tout le monde dehors et il s'enferme à l'intérieur de la cathédrale. Il ferme les portes et... Il vire tout le monde, sauf une personne qui décide de rester, et cette personne, c'est le père Kern. Parce qu'il donnait la messe à ce moment-là, quand les clochards ont investi la cathédrale. Et la police, évidemment, est convoquée, et elle croit malheureusement à une prise d'otage, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc il y a tout un tas de malentendus qui s'enchaînent et qui vont mettre cette dizaine ou cette douzaine de clochards enfermés dans la cathédrale en péril. Mais à la base, c'est vraiment parce qu'ils avaient trop froid qu'ils sont rentrés là-dedans. Et finalement, il y a quelque chose d'imprévu qui gonfle et qui, en effet, va faire de Mousse une sorte de porte-parole. Alors Mousse n'avait pas du tout prévu ça, mais finalement, les choses s'emballent, les choses déraillent. Le père Kern essaie de protéger le jeune Mousse de lui-même, c'est-à-dire que Mousse commence à s'emballer lui-même, commence à s'emplir de ses propres mots, de ses propres paroles. Il y a un moment où il va donner même une conférence de presse. Et ce qui est étonnant, c'est que ça va s'emballer progressivement au-delà même de la cathédrale, au-delà même du parvis de Notre-Dame, au-delà même de Paris. C'est-à-dire que c'est toute la France qui, au bout d'un moment, relayée par les médias, va prendre soit fait et cause pour les clochards, soit au contraire va dire non, il faut virer ces clochards de la cathédrale parce qu'ils n'ont rien à faire là. Et finalement, cette séparation qu'on a, elle va se décliner à travers toutes les grandes institutions qui sont concernées par cette affaire, c'est-à-dire les politiques, il y aura les pour et les contre, à l'intérieur même de l'Église, à travers la hiérarchie ecclésiastique, il y aura aussi les pour et les contre, c'est-à-dire ceux qui diront, comme le père Kern, mais oui, il faut laisser au moins quelques heures ou quelques jours à ces clochards pour se reposer, pour se réchauffer. Et oui, une cathédrale comme Notre-Dame peut servir, même pour un délai court, à ce qu'ils retrouvent leurs esprits. C'est notre fonction. Et puis, il y a le recteur, par exemple, de la cathédrale, qui lui est l'administrateur, en quelque sorte, de ce lieu-là, et qui dit, attendez, demain, ce sont les célébrations de Noël. Il y a 2000 personnes qui sont attendues dans la cathédrale. Il est hors de question qu'on laisse une dizaine de clochards investir la cathédrale. Bon, ça, c'est son point de vue. Et puis, au-dessus du père Kern et du recteur, il y a le cardinal archevêque de Paris qui, lui, a aussi qui essaie d'équilibrer les choses donc, et qui dit « Oui, on peut comprendre, demain, il y a les fêtes de Noël. En même temps, il faut les laisser se reposer quelques heures. » Et finalement, Mousse et l'occupation de Notre-Dame représentent un catalyseur qui oblige les gens à prendre parti par rapport à cette question du logement des sans-abri. Oui. Et ça se décline donc dans l'Église, chez les politiques et finalement vraiment dans la France entière. C'est-à-dire qu'il y a des manifestations qui vont se créer sur le parvis pendant les 2-3 jours que dure l'occupation et qui sont des manifestations soit pour, soit contre cette occupation. Donc finalement, on réalise que cet événement-là, une dizaine de clochards qui s'enferment dans ce lieu très symbolique qu'est Notre-Dame, cette occupation-là cristallise tout un tas de tensions, tout un tas de problématiques qu'on peut avoir en France. Et c'est de ça aussi dont j'ai voulu parler finalement, c'est-à-dire à travers ce décor plus ou moins unique qui est celui de la cathédrale et de ses alentours, on arrive quand même à parler de choses bien plus larges et on arrive à parler de certaines problématiques qui concernent le pays tout entier.
C'est vrai qu'à partir d'une énigme policière, tu fais comme les auteurs de Noir. Tu as un constat social, un constat politique, ce dont on ne s'attend pas forcément au départ d'ailleurs.
Oui, en tout cas, j'essaie de dresser un portrait, de poser des questions. Je ne prétends pas apporter la moindre réponse, mais comme je disais tout à l'heure, la fiction et les personnages de fiction m'aident à m'interroger moi. Et après, il y a la phase d'écriture qui est une phase de partage de ces questions. En fait, c'est comme si un petit peu c'est comme si je posais ces questions à voix haute. Et encore une fois, ce sont les personnages qui, chacun à leur manière, chacun en fonction de leur parcours, de leurs idées politiques, résolvent les questions chacun à leur manière.
Mais c'est vrai que quand tu as parlé de figures de gargouilles, de tous ces personnages qui grouillent et de laisser pour compte, moi je pensais à Zola, je pensais à Hugo, je pense que ça va te faire plaisir. D'ailleurs, c'est sous une citation de Hugo que tu as ouvert ton livre.
Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien la lire. Oui. Parce qu'elle est très belle et en fait, elle a été le fil rouge de l'écriture. Mais c'est pas tiré de Notre-Dame de Paris, on pourrait penser, mais non. C'est tiré en fait d'un livre qu'il a écrit sur la commune. « Rendez-moi mon foyer, mon champ, mon industrie, ma femme, mes enfants. Rendez-moi la clarté. Qu'ai-je donc fait pour être ainsi précipité dans la tempête infâme et dans l'écume amère, et pour n'avoir plus droit à la France, ma mère ? Donc, voilà, ça parlait des communards, mais ça peut s'étendre à tout un tas de personnes qui ont l'impression d'avoir été abandonnées, d'avoir tout perdu, et qui ont le sentiment non seulement d'avoir perdu leur famille, leur travail, voilà, leur industrie, le foyer, le champ, l'industrie, qui ont pu perdre leurs femmes, leurs enfants, mais qui ont le sentiment aussi d'avoir été abandonnés par leur mère, la France.
Tu as dû lire ce polar de Thierry Jonquet,
ouais,
qui avait une citation aussi de Victor Hugo dans son titre, « Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte »,
voilà,
où il parlait des banlieues, de l'éducation à la dérive, des enfants perdus, des professeurs dépassés. Il y avait un constat social terrible aussi.
Ouais.
J'y ai pensé quand je t'ai lu aussi.
Oui, oui, c'est tiré du même livre de Victor Hugo, d'ailleurs. C'est un livre qui est très, très fort. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup Thierry Jonquet parce qu'il a à la fois une très grande solidité dans les intrigues et des personnages qui sont très incarnés, comme ça, qui ont beaucoup de chair. Et en même temps, en effet, il y a des interrogations sociales qui sont très, très puissantes et qui me semblent importantes quand on écrit du roman noir. C'est l'une des fonctions, me semble-t-il.
Alors, on va revenir à toi, mais puisque du coup, on parle d'écrivains que tu aimes, est-ce que tu voudrais profiter d'une petite parenthèse pour nous citer tes coups de cœur ? Alors, ça ne m'a pas trop étonnée parce que tu n'as pas trop choisi de polar. Et c'est vrai qu'en te lisant, je me disais, qu'est-ce qu'il lit comme polar ? Et tu as choisi de la littérature aussi. Hein ?
Oui.
Alors, il y a Le voleur de Darien, notamment.
En fait, tu m'avais demandé, avant de venir, de citer mes trois polars préférés ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce n'est pas forcément des polars, mais ce sont des livres qui m'ont énormément marqué et qui m'inspirent dans l'écriture de polars, même s'ils n'en sont pas forcément. Et le premier de ces livres, c'est justement « Le voleur » de Georges Darien, qui est un livre qui est paru à la toute fin du XIXe siècle. Georges Darien était un auteur anarchisant. Et justement, là, on n'a pas une couverture de roman noir, et pourtant, il y a une dimension de critique sociale qui est absolument phénoménale. C'est absolument exemplaire. Ça peut être parfois un peu bavard comme roman, mais il y a des personnages qui sont extrêmement puissants et qui sont au service d'une vision qui est propre à Georges Darien, qui est une vision politique très puissante, enfin très forte, très, très engagée, disons. Mais c'est un livre que je trouve exemplaire dans sa description d'un certain milieu social et dans sa critique d'un certain milieu social. C'est aussi un livre qui a été adapté au cinéma. Il y a eu un très beau film qui date de 1967 ou 68 de Louis Malle avec Jean-Paul Belmondo et avec une galerie de second rôle absolument phénoménaux, c'est-à-dire Julien Guillaumard, Charles Denner et des rôles féminins magnifiques. Et je trouve vraiment que l'adaptation est très brillante du roman au film, mais je crois vraiment qu'il a réussi à faire un très beau film parce qu'on a dans ce roman des personnages qui ont énormément de chair et qui sont vraiment porteurs d'un discours, d'une vision de la société qui est tout à fait passionnante. On peut la partager ou pas, mais en tout cas, c'est un livre qui est très, 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 très fort et vraiment que je recommande. Après, il y a ce livre d'un jeune auteur débutant, hein, Dostoïevski. J'ai l'impression que c'est un peu le livre... père, enfin oui, c'est la mère de tous les polars quelque part, ou le père de tous les polars, ce livre, parce que Crime et châtiment, donc il y a un tel niveau de détails, où il y a une telle exploration en profondeur du personnage de Raskolnikov et donc des conséquences d'un crime, qu'on doit absolument le lire. On doit absolument s'interroger sur cette exploration psychologique phénoménale avant d'écrire un roman policier qui est un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, un roman policier ou un roman noir, c'est avant tout le roman du trajet fait par une culpabilité, c'est-à-dire du crime vers la confession et la recherche de rédemption. Pour moi, c'est une dimension absolument fondamentale du roman policier. Et finalement... la source de tout ça, on peut le trouver dans Crime et châtiment. Donc évidemment, ce n'est pas un roman qui a une couverture noire, mais d'une certaine façon, on peut le considérer comme un polar et bien au-delà. Enfin, il y a mille autres choses dedans. Mais en tout cas, quand on écrit du roman policier, quand on s'y intéresse, ça me paraît non seulement un incontournable, ça me paraît même une pierre angulaire fondamentale, en fait.
On l'avait sorti dans deux éditions, Le Folio,
ouais,
Le Babel.
C'est peut-être deux traductions différentes, surtout. Oui. Hein. Ouais. Oui, oui. Georges Niva et puis Markovitch, ouais. Ouais. Et le dernier, ah, quand même, il y a une couverture noire. Le dernier, bah, qui a d'ailleurs aussi été adapté en film, c'est La Nuit du Chasseur. Donc, on connaît beaucoup le film parce que c'est aussi un chef-d'œuvre et Robert Mitchum est exceptionnel dedans. Mais le roman lui-même qui a donné naissance au film est absolument exceptionnel. Pour moi, c'est un livre absolument parfait de par les personnages, de par l'intrigue. Et aussi parce que dans la manière d'écrire de Davis Grubb, qui n'a écrit qu'un seul roman, tout comme le réalisateur du film, de l'adaptation de Charles Laughton, qui était acteur, n'a réalisé qu'un seul film, qui est La Nuit du Chasseur. Et bien donc Davis Grubb n'a écrit qu'un seul roman, et c'est un roman parfait, parce que aussi il a dans sa langue une forme de poésie qui est absolument magnifique et qui pour moi me semble particulièrement adaptée au roman noir. Si vous êtes curieux, lisez-le parce que c'est un plaisir inouï de lecture. Et en même temps, donc, ça raconte l'histoire de deux petits enfants dont le père a eu un coup de folie, a dévalisé une banque. Et donc, le père est arrêté, il est exécuté, mais il a confié l'argent de son casse, il l'a caché quelque part, et seuls les deux petits enfants savent où l'argent est caché. Même pas la femme. Donc c'est seulement les deux petits-enfants qui savent. Et juste avant d'être exécuté, le père qui avait fait le casse avait un sinistre compagnon de cellule avec lui. Et ce compagnon de cellule, c'est un personnage de vrai faux prêcheur absolument sinistre. Et ce prêcheur n'a qu'une seule obsession, c'est ensuite, une fois libéré, puisque lui n'avait qu'une petite peine, une fois libéré, il va retrouver les deux enfants pour essayer de leur faire dire où est caché l'argent. Et donc c'est la lutte vraiment entre l'innocence des enfants et la noirceur de ce personnage, sauf que les choses sont un peu plus compliquées que ça, puisque ce personnage qui est vraiment sinistre s'est habillé d'une sorte d'habit de pureté, puisqu'il se présente comme un homme de Dieu. Donc c'est aussi un jeu autour des masques, autour de l'ambiguïté, d'un personnage qui se présente comme bon, alors qu'en fait, il est tout noir à l'intérieur. C'est vraiment un très, très grand livre.
Alors, tu viens de prononcer le mot poésie. J'aurais cru que peut-être tu aurais choisi un recueil de poèmes de Victor Hugo.
Ouais.
Non.
Tu m'as demandé des polars au départ. Oui. Donc,
est-ce que tu lis de la poésie ?
Pas tellement, mais c'est vrai que Victor Hugo, j'aime énormément, que ce soit les romans ou la poésie. C'est un auteur qui a énormément de souffle, et pour moi ça, et puis évidemment c'est un très grand auteur de théâtre aussi, et d'ailleurs dans tous les genres qu'il a pu explorer, et aussi les écrits politiques, on a toujours cette espèce de souffle épique invraisemblable qui pour moi est une, je dis pas un modèle, mais en tout cas c'est aussi une base très importante de lecture. L'une des dimensions de l'écriture, pour moi, il y a l'aspect humain, dont je parle un peu comme ça en filigrane depuis le début, mais il y a aussi dans l'écriture la dimension du souffle, très important. C'est-à-dire, c'est quelque chose, l'écriture, les mots, la parole, le verbe, c'est quelque chose qui doit traverser les personnages à travers les dialogues, mais aussi à travers les descriptions. Et idéalement, c'est quelque chose qui doit aussi parvenir jusqu'au lecteur ou au spectateur de théâtre, quand on écrit du théâtre. Et c'est le travail de l'écrivain d'arriver à trouver ce souffle dans l'écriture et que le souffle atteigne et traverse aussi le lecteur. C'est quelque chose qui doit être quasiment physique, ça doit presque être un carburant qui déclenche des réactions et qui vous met en mouvement, ou en tout cas, au minimum, qui vous pousse à tourner la page et à aller jusqu'au bout du livre. Ça, c'est quelque chose qui est très présent chez Victor Hugo, qui est très présent chez les immenses auteurs de théâtre comme Shakespeare par exemple, c'est-à-dire une dimension organique du verbe qui habite, qui incarne l'acteur, qui incarne les personnages et qui doit même aller jusqu'au spectateur ou jusqu'au lecteur. C'est une dimension que j'ai toujours en tête quand j'écris et qui a aussi à voir avec la musicalité des mots, je crois.
Alors, il y a un poème que tu cites dans le livre et je n'ai pas eu le temps de mener l'enquête. Est-ce que c'est de Victor Hugo ?
Oui.
Page 74 ?
Oui.
« J'essaie à pied de longues routes, marchant la nuit. »
J'ai fait à pied de longues routes, marchant la nuit, craignant les voix, plus remplies d'ombres et de doutes que la bête fauve des bois. J'entendais rire sous le chaume les paysans à leur repas. Un étranger est un fantôme, les murs ne le connaissent pas. Donc ça, c'est un poème de Victor Hugo. D'accord. Et c'est Gombrowicz, quand ils vont enquêter justement au Musée des sculptures en plein air et au moment de la tombée de la nuit et qui voient les clochards, comme je lisais tout à l'heure, qui installent leur campement à la tombée de la nuit. Gombrowicz regarde ça, et alors voilà, ça doit être sa part un peu sensible, qui fait remonter ça, et c'est un vieux souvenir qui lui revient de l'école, en fait. C'est-à-dire, ce sont des vers qu'il a dû apprendre à l'école, et il ne se souvient plus d'où ça vient, il ne se souvient plus qui est l'auteur de ces vers. Donc, mais ça lui ressort comme ça. Et Landard, juste derrière, lui dit « C'est quoi ces conneries, Gombrowicz ?» Voilà.
Il y a quelque chose dont je voudrais parler aussi, c'est on parlait des lieux avec Notre-Dame de Paris. Et il y a un lieu dont on n'a pas parlé, qui est très présent dans l'Évangile pour un gueux. Mmh. C'est le Père Kern qui s'est réfugié dans le centre Wezenski. Oui, oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. Alors, ce qui s'est passé au moment de Noël à ce moment où les clochards ont investi la cathédrale Notre-Dame, donc le Père Kern était présent. Et puis, pendant ces 2-3 jours d'occupation, il y a quelque chose qui s'est... Le Père Kern a essayé de les protéger, ces clochards, au maximum. A essayé de les protéger des médias, a essayé de les protéger de la police. Il savait parfaitement que cette occupation ne pouvait pas durer, mais il a essayé de les protéger au maximum et de trouver une sortie à cette crise-là. Et il considère qu'il a échoué, qu'il ne les a pas assez protégés, parce que ça s'est mal terminé avec la police et ça s'est fini dans la violence. Et donc, il est pris de culpabilité. Il s'est aussi mis, il faut bien le dire, sa hiérarchie à dos, parce que lui a voulu défendre jusqu'au bout la présence des clochards dans Notre-Dame, alors que finalement le cardinal a choisi de les éjecter. Et donc, il a un besoin de prise de distance par rapport à la cathédrale. Il reste prêtre, évidemment, mais il va aller trouver refuge dans un lieu qui existe vraiment, qui est en banlieue parisienne, et qui s'appelle le centre Wrezinski. Alors le centre Wrezinski dépend de ATD Quart-Monde. Le père Wrezinski, c'était le fondateur d'ATD Quart-Monde, donc qui apporte une aide sociale aux plus démunis à travers le monde. Et le centre Wrezinski est un lieu assez extraordinaire et très chargé aussi du point de vue poétique, on va dire, parce que c'est un lieu où on recueille, où on classe, où on stocke et où on fait des recherches sur les objets de la misère. C'est-à-dire qu'on stocke là-bas, on rassemble des dessins, des morceaux de films, des bandes audio, des photos, enfin voilà, des témoignages de cette société de la misère, de ce monde de la misère qui est un monde en soi. Et on considère là-bas, et je le mets dans le livre, que ces objets qui ont appartenu aux plus démunis représentent un véritable trésor. Et il faut en tout cas en garder la mémoire. Et le centre Wrezinski est dédié à ça, c'est-à-dire qu'il y a des archivistes, en général bénévoles, qui rassemblent ça, qui classent tout ça, et qui donnent accès aux chercheurs en général, aux universitaires, mais on peut y aller, n'importe qui peut y aller, et qui donnent accès aux gens pour faire des recherches sur ces objets-là, qui sont finalement ce qui reste d'une société de démunis qui est passée. Et le père François Kern s'est réfugié dans la cave où il passe ses journées, un petit peu aussi pour panser ses plaies après cette occupation douloureuse de Notre-Dame. Il passe ses journées à classer les dessins d'enfants et les jouets cabossés.
Mais qui recense ces objets? Qui les amène au centre?
Eh ben, je pense que ce sont les antennes en fait, d'ATD Quart-Monde qui les rassemblent. Et là, en fait, c'est vraiment un centre de documentation, en quelque sorte. C'est-à-dire que ATD Quart-Monde a aussi vraiment l'idée de... Il y a un travail de mémoire qui doit être fait pour que la mémoire de ces gens-là, qui sont un petit peu des invisibles, reste et demeure et qu'on puisse travailler dessus aussi.
Est-ce que tu voudrais lire un petit passage ? Je trouve cette description très belle.
Donc c'est au début du livre, donc la juge d'instruction Claire Kaufmann qui vient trouver le père Kern justement au centre Wrzesinski. Elle a appris qu'il travaillait là-bas et elle vient le trouver parce qu'elle sait que lui était présent pendant l'occupation de Notre-Dame, et elle se dit peut-être que le père Kern, qu'elle connaît déjà bien, pourra l'aider dans son enquête sur l'assassinat de Mousse. Père Kern, si je peux me permettre, qu'est-ce que vous faites dans ces sous-sols ? Et le père Kern répond. J'aide. Je donne un coup de main en tant que volontaire. Je classe, je trie des objets de toutes sortes. C'est à cela que sert le centre Wrzesinski. Ici, nous conservons une trace du passage des plus pauvres sur Terre, ceux que la misère a rendus invisibles aux yeux du monde. Jouets, dessins, peintures, lettres, cartes postales, photographies. Nous conservons ce qu'ils ont fabriqué de leurs mains. Nous conservons une trace de leur combat, des injustices subies, sur des bandes magnétiques, sur des pellicules photographiques, et maintenant sur des ordinateurs. Nous conservons leur visage et leur voix, nous conservons aussi leur rire et leur sourire. Voilà Claire, voilà ce que je fais de mes journées sous terre. Ici, nous constituons la mémoire collective de l'extrême misère, et cette mémoire est un inestimable trésor. L'idée de mémoire est très importante, et aussi l'idée de dignité est très importante dans cette association et au centre Wrzesinski. C'est une association en fait, qui a été créée dans les années 50, c'est-à-dire à peu près au même moment, juste après l'appel de l'abbé Pierre, hein, donc on était à la fin des années 50, et d'ailleurs le premier camp, hein, le premier camp de réfugiés qui a été géré par ATD Quart-Monde était un ancien camp d'Emmaüs en fait. Et la première chose que le père Joseph Wrzesinski a créé dans ces camps, dans le premier camp dont il a eu la charge, bah, c'était pas pour donner à manger, etc. Et la première chose qu'il a créée, c'était un salon de coiffure pour les femmes et une bibliothèque. Donc il y a vraiment l'idée de dignité et de mémoire qui est très très présente dans le travail, et c'est vraiment une belle chose.
Il me semble qu'on a bien circonscrit ton univers, tes personnages, tes histoires. Est-ce que vos personnages vous hantent encore ? Est-ce qu'il y aura un troisième opus ?
J'ai bien l'impression. Là, pour l'instant, je travaille sur autre chose, mais je pense qu'ensuite, ils vont revenir toquer à ma porte. Ouais. Ouais.
Je vous remercie. Merci à tous.
Merci.